Les enjeux internationaux.
Eh ben oui, Thierry Garcin, évidemment, c'est avec vous. Bonjour Thierry Garcin.
Bonjour Guillaume et bonjour Patrick Dombrovski.
Bonjour.
Alors, vous êtes directeur du Centre européen de recherche sur l'Asie médiane. C'est donc un thème qui est très cher à vos travaux. L'Asie centrale soviétique ou ex-soviétique, à laquelle on rattache souvent l'Azerbaïdjan, de l'autre côté de la mer Caspienne, pour des raisons religieuses. Ce sont tous des pays musulmans. Au fond, cette Asie centrale ex-soviétique, et c'est tout à fait frappant, n'est plus sur le devant de la scène. Alors, il faut se demander pourquoi. Alors, ces six pays ont des caractéristiques souvent très intéressante à observer. C'est des pays enclavés, c'est un grand nombre d'entre eux. Ils ont été étudiés avec attention après la disparition de l'URSS. Alors, en dehors du facteur religieux et d'ailleurs de la présence de mouvements radicaux islamistes, qu'est-ce qu'ils sont devenus? On se demandait, il y a une 25 ans, au fond, on se demandait quelle pourrait être leur évolution politique, les liens économiques et culturels qu'ils garderaient avec Moscou. Est-ce qu'ils représentaient des atouts tout pour la Chine? Est-ce qu'ils allaient dépendre beaucoup de la géopolitique des tubes, c'est-à-dire évidemment des oléoducs et des gazoducs? Et puis, quelles relations ils allaient tisser entre eux? Alors, quel regard 25 ans après? Un regard d'abord, Patrick Dombrovski, global.
Mais écoutez, cette région d'Asie centrale ex-soviétique, qui est une des parties de l'Asie médiane, qui est un petit peu plus large, qui va jusqu'en Afghanistan, Xinjiang chinois, l'Azerbaïdjan, comme vous l'avez rappelé, mais cette Asie centrale ex-soviétique, finalement, un quart de siècle après, elle a complètement, bon, je ne vais pas dire raté, mais elle a complètement manqué le train de son décollage régional. C'est-à-dire que les pays sont restés très abrités derrière l'énorme rente de situation qu'a été pour certains d'entre eux l'abondance de leurs ressources matières premières et essentiellement et avant tout les ressources en hydrocarbures. Mais en dehors de ça, il n'y a quasiment rien en matière de coopération régionale qui ne soit pas plus ou moins dirigé soit par la Russie, soit par la Chine, soit par les deux. Il n'y a pratiquement rien en matière de lien de sécurité entre les uns et les autres. Il n'y a pas tellement de solidarité d'objectifs. Certains des pays, d'ailleurs, concernés par cette région sont vraiment dans une situation de quasi-immobilisme géopolitique pour des raisons qui tiennent d'ailleurs beaucoup plus à leur politique intérieure qu'à leur géopolitique. Et on a cette situation d'une Asie centrale ex-soviétique qui n'est pas revenu dans le giron de Moscou, qui n'est pas perdu son indépendance, qui est toujours là, mais qui est une sorte de grand espoir déçu, finalement.
Et dites-moi, par exemple, sur le plan politique interne, on va commencer par cela, on a l'impression, vu de l'extérieur, que les responsables sont d'une grande longévité, on pourrait dire que ce sont des caciques, la plupart d'entre eux, inoxydables, et que cela gèle, finalement, peut-être, le développement.
Un petit peu, bien sûr. Cela dit, c'est une impression qui est quand même relativement trompeuse, puisque sur les cinq pays concernés, dont on ne va pas se hasarder à annoncer le nom parce que ce serait terrible pour nos auditeurs, ce sont des noms absolument imprononçables, mais sur les cinq pays concernés, il n'y en a plus que deux qui ont encore à leur tête le dirigeant qui les a conduits à l'indépendance, ou plutôt qui a accompagné l'indépendance en 1991, au moment de la chute de l'Union soviétique. Mais il se trouve que ces deux pays sont les deux plus importants, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Ce sont les deux plus peuplés, ce sont les deux qui ont l'espace, le territoire le plus essentiel. Pour le Kazakhstan, c'est celui qui a le plus de ressources, de très loin. Donc forcément, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Et ces deux pays dégagent plus cette impression d'immobilisme pour des raisons de politique intérieure. Pourquoi ? Parce que les dirigeants en place n'ont pas du tout préparé ou n'ont pas voulu préparer leur succession, et qu'ils commencent à avoir un certain âge. Le président Nazarbayev du Kazakhstan a 76 ans, le président Karimov d'Ouzbékistan a 78 ans, ce qui veut dire qu'a priori, sans être particulièrement cynique, leur avenir politique est quand même plutôt derrière eux que devant eux, et qu'à un moment ou un autre, qui se rapproche, la succession va s'opposer. Et elle n'est pas du tout préparée. Donc, dans ce grand genre de contexte, dans des régimes autoritaires qui n'ont pas préparé leur succession, bien évidemment, personne ne bouge la moindre oreille sous peine de risquer de se retrouver au court-circuité des actes du pouvoir. Et ça crée un immobilisme régional, avec en plus les raisons qui sont les rivalités que les uns et les autres des pays pourraient avoir entre eux.
Et est-ce qu'il faut dire un mot de du facteur, islamiste ou pas?
Alors, l'islamisme, ce qu'on appelle de manière générique l'islamisme, l'islam radical, ou bon, appelons-le comme on veut, est quelque chose qui a toujours été relativement présent comme menace depuis au moins une quinzaine d'années. L'islam centra-asiatique est un islam très modéré, très personnel presque, qui ne s'encombre pas beaucoup de ce discours radicaliste que l'on a au Proche-Orient ou au Moyen-Orient, mais la menace existe. Alors elle a existé essentiellement pour des raisons de politique intérieure. On se souvient par exemple du mouvement islamique d'Ouzbékistan. C'était lié aussi à la situation en Afghanistan qui faisait un petit peu de porosité à travers les frontières. Maintenant, à l'heure actuelle, cet islamisme, il est toujours présent. Il attend toujours que les régimes s'effondrent un peu comme des fruits mûrs. Il n'y a pas de menace directe sous forme de mouvements insurrectionnels, mais il y a des partis plus ou moins clandestins qui existent toujours, des groupements politiques qui existent toujours et qui sont de plus en plus en train de se faire gangréner ou en train de se faire phagocyter par des mouvances plutôt proches de l'État islamique. Alors, l'État islamique n'a pas réellement de projet vis-à-vis de l'Asie centrale anciennement soviétique, mais l'État islamique participe quand même, un peu comme dans tous les autres pays du monde où il y a des présences de populations musulmanes, il participe aussi à l'extension ou l'expansion, comme on voudra, de cet islamisme radical qui menace les régimes en place.
Alors sur le plan économique, il y a quand même un certain nombre d'entre eux qui ressemblent à des États rentiers. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette expression ? Turkménistan avec le gaz, Azerbaïdjan quand même avec le pétrole, et est-ce que cette manne des hydrocarbures explique aussi une forme d'immobilisme ?
Alors, leur immobilisme au point de vue de la politique intérieure, c'est essentiellement la volonté de contrôle de la population, des régimes par les pouvoirs en place. Leur absence de coopération locale peut être aussi due au fait de ne pas vouloir perdre les prébendes de cette rente, mais je suis entièrement d'accord avec vous. L'économie de rente a eu l'énorme avantage de déverser sur des États qui n'avaient rien au moment de leur naissance en 1991, aucun atout économique pour eux. C'était la région la plus pauvre de l'ancienne Union soviétique, ça leur a déversé des tonnes d'argent, donc forcément ça a créé un gros avantage, mais ça n'a pas permis de, comme souvent dans ce genre de situation, ça n'a pas permis de voir apparaître les réformes qui auraient pu, je ne parle même pas de réformes au sens libéral du terme, de réformes de structure qui auraient permis de rendre possible un développement économique local.
Donc au fond, il y a autant d'interrogations que de certitudes à l'égard de cette zone complexe.
Des interrogations, oui, et puis un constat qui est relativement amer, notamment pour tous ceux dont je fais partie et qui s'intéressent à cette région, c'est que la région a échoué finalement à faire que l'on s'intéresse à elle. C'est assez révélateur quand on voit les diplomaties des grandes puissances. La Russie et la Chine s'intéressent à cette région uniquement parce qu'elles veulent assurer leurs arrières, ou elles veulent, pour la Chine, trouver des clients qui pourraient être des fournisseurs d'hydrocarbures. Pour la Russie, veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de porosité de l'islamisme à l'intérieur des frontières de la Fédération de Russie. Les États-Unis s'y sont intéressés tant qu'ils ont été très présents dans l'affaire afghane. Maintenant, ils s'intéressent un petit peu moins. La France n'a jamais rien compris à cette région. Et pourtant, c'est François Mitterrand qui a été à l'époque le premier dirigeant occidental à se rendre en voyage officiel dans la région.
On va se quitter là, Patrick Dombrowski. Il y a beaucoup d'autres choses à dire. En tout cas, pour vous réécouter et vous télécharger, bien entendu, franceculture.fr.